Alors la parole du Christ dans l'Évangile est assez forte, puisqu'il cite deux événements qui certainement défrayaient la chronique de son temps. Cette mort des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, et puis ceux qui étaient tombés sous la tour de Siloé qui s'était effondrée et qui était aussi mort. Et il parle de ces événements-là, et il dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez comme eux. Alors on peut dire, mais c'est quand même fort comme parole, parce que, au fond, est-ce que c'est pas un peu provocant quelque part? Et où est-ce qu'il est le Dieu d'amour? Parce que c'est une parole comme ça, c'est une parole qui est un peu, qui nous secoue, quoi. Et on dit, un peu de condamnation aussi, voire un peu culpabilisante. Alors, il faut bien comprendre que c'est un mode habituel dans la Bible. Au fond, quand l'auteur sacré, là, en Jésus, en personne dans cet évangile, dit « Si vous ne faites pas ceci, alors vous mourrez », ou alors on entend parfois dans la Bible d'autres passages, on dit « Mais Dieu a tué celui-ci, il a tué celui-là », etc. Et on est un peu choqué, on se dit « Mais c'est pas cette idée-là qu'on a du Seigneur ». En fait, il faut bien le comprendre. Nous, on le comprend à l'envers, parce qu'on n'a plus la culture biblique. Il faut bien le comprendre dans le sens où, si vous continuez à agir comme vous agissez, la conséquence de vos actes sera bien celle-ci, cette mort spirituelle. Si vous continuez à laisser de côté la prière, si vous continuez de laisser de côté la présence du Seigneur dans votre vie, alors oui, ne vous étonnez pas, vous récolterez vous-même la rançon de vos actes. Et je trouve ça assez intéressant de voir que nous avons une responsabilité, nous aussi, par rapport à la vie éternelle. Nous croyons que les actes que nous posons ici-bas, d'une manière ou d'une autre, retentissent dans l'éternité. Ça veut dire aussi que nous avons une grande responsabilité. Loin d'être un Dieu qui condamne, etc., Jésus montre au contraire la responsabilité de ces Galiléens qui l'écoutent, de ceux qui sont là en face de lui, en disant, à vous de vous convertir. Prenez conscience de la gravité de la chose. Vous n'êtes pas meilleur que ces gens que Pilate a assassinés ou que ces gens morts sous la tour de Siloé. Vous n'êtes pas meilleur qu'eux. Alors convertissez-vous. Alors convertissez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au fond, changer d'attitude, changer de regard. Hein, le mot latin veut dire se tourner vers. Alors qu'on a l'habitude de se tourner vers nous-mêmes en pensant à ce qui nous est le plus agréable, en pensant à ce qui, d'une manière, nous convient, etc., etc., ou de se tourner vers des idoles, comme peut être l'argent, le plaisir, le pouvoir, que sais-je. Ce qu'on a vu au fond au tout début du carême avec les trois tentations, qui sont les trois tentations complètement actuelles, Jésus nous dit, vous devez vous convertir, vous devez vous tourner, faire comme c'est ce qu'on appelle une révolution copernicienne. Vous savez, Copernic, c'est celui qui avait découvert que, ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, c'était la Terre qui tournait autour du soleil. Mais il faut faire une révolution intérieure, de dire, ce n'est pas le monde, quelque part, où c'est pas le Dieu qui tourne autour de nous, on se sert de Dieu pour nos besoins personnels et portatifs. Non, c'est nous qui nous mettons à faire d'écoute, nous nous tournons vers lui. Et le temps du carême, c'est un temps favorable pour ça, pour prendre conscience de peut-être des enfermements qu'on a pu avoir, des replis sur soi-même qu'on a pu avoir et qui ne les a pas, et d'égoïsme, de... Bon, bien sûr, si on n'a pas tué père et mère, vous me direz, ça je veux bien le croire, mais en fait, quand on commence à regarder un petit peu dans le détail de nos vies, on voit que parfois on est appelé à une logique de don, que ce soit dans la vie de famille, dans la vie de travail ou dans la vie de la paroisse, une logique de don de soi-même, on voit parfois des résistances dans notre cœur, on résiste intérieurement. On veut pas, hein, parce que donc du coup, se convertir, laisser à Dieu la première place, c'est aussi rentrer dans une forme de logique de désappropriation. On se perd soi-même, et je trouve que le Saint-Père Benoît XVI nous a bien montré ces jours-ci, de toute façon très touchante, je sais pas si vous avez suivi les actualités, vu un peu les dernières vidéos, etc., c'était vraiment... C'était très très beau, ça, il parlait avec le cœur comme ça, sans notes, etc. C'était très 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 beau. Voilà, il n'est pas attaché au pouvoir, il y a une forme de désappropriation. Donc ça, et ça c'est un exercice, et c'est pas pour rien qu'il a fait ça, cette annonce lors du carême, quoi, ou l'entrée en carême en tout cas, c'est juste avant il me semble. Donc du coup, voilà, c'est, il faut toute une vie pour ça, parce qu'on voit bien que, comme le disait mon maître des novices, on se donne quand on rentre dans la vie religieuse, on se donne en gros, voilà, de façon massive. Et puis on se reprend en détail. Et je pense que c'est pareil dans toute vie. Dans toute vie matrimoniale, familiale. Voilà, on désire aimer, on désire avoir donné le maximum, on désire quelque chose de grand pour nous, pour le couple, pour la famille, que sais-je. Et puis on voit bien que parfois, on se reprend. Hein, on reprend, on a un peu les doigts crochus, alors ce temps-là, cela. Et donc on reprend pour soi des choses. Et qui fait que, voilà, on pense que ça va nous rendre heureux. Et au fond, non, ça ne nous rend pas heureux. Ce qui nous rend heureux, c'est le service. Ce qui nous rend heureux, c'est cette désappropriation. On est riche de ce que l'on donne. Vraiment, c'est ça. Et ça, je pense que c'est très beau de voir. Et alors, en même temps, parce qu'il y a toujours le paradoxe évangélique, il dit, voilà, Jésus, si vous ne vous convertissez pas, eh bien, vous périrez tous. Hein, parce que vous récolterez le salaire de vos actes, et puis en même temps, la dernière parabole, qui est plus encourageante. C'est toujours le paradoxe, il faut toujours le tenir les deux. Voilà, Jésus qui parle d'une parabole, un figuier qui ne porte pas de fruits, etc., coupe-le, il épuise le sol, et puis le vigneron lui dit, laisse-le Seigneur encore cette année, je bêche, je mettrai du fumier, et peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Il y a à la fois cette urgence de la conversion et à la fois la patience du Seigneur avec nous. Et c'est vrai que vous avez remarqué combien le Seigneur est patient et combien... Ben voilà, on n'est pas arrivé ici dans cette église, peut-être on est passé par des chemins spirituels très divers, chacun, peut-être des chemins, des moments d'éloignement du Seigneur, voire de révolte ou d'incompréhension, de colère par rapport à Dieu. Et puis progressivement, on a fait un retour vers le Seigneur. Voilà, parce que le Seigneur a été patient. Hein, c'est ce qu'on a marqué là. Seigneur est tendresse et pitié, c'est ça. Il est plein d'amour et lent à la colère. Et je crois que c'est très beau, ces trois récits, cette parabole et ces deux récits mis bout à bout, qui montrent à la fois l'urgence et à la fois la confiance, pour pas qu'on se décourage, parce qu'on se dit, ben oui, vous savez, quand ce qui est difficile quand on se confesse, c'est que précisément, grosso modo, on confesse les mêmes choses. C'est pas vous, mais moi, grosso modo, c'est les mêmes choses. Vous me direz, le prêtre ne vous demande pas de faire dans l'originalité. Hein, ah, ben j'ai un truc nouveau qui vient de sortir. Non. De fait aussi, quand on regarde, on se lave toujours les mains avant de passer à table. On prend sa douche tous les jours. Je veux dire, c'est ce que l'on comprend pour le corps, pourquoi est-ce qu'on ne le comprend pas pour l'âme? Et je trouve que dans le sacrement de la réconciliation, de la confession, justement, on reçoit à la fois un encouragement et une patience par rapport à nous-mêmes. Peut-être il y a des choses en nous-mêmes qu'on voudrait changer. Des traits de caractère, des manières de parler, d'agir. Il faut être aussi patient avec soi-même. Il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton pour que ça change. Mais peut-être aussi, on veut demander au Seigneur son aide. Son aide, et donc du coup, le fait d'entendre le prêtre qui dit « Je te pardonne tes péchés », voilà, nous avons cette certitude de l'aide et de la miséricorde du Seigneur. Donc c'est quand même très fort, cette sacrement de réconciliation, qui est justement l'appel à la conversion. Vous savez, pour que l'absolution soit valide, il faut qu'il y ait un vrai repentir du cœur, un vrai désir de changer. Sinon, voilà, c'est pas la station de lavage, le confessionnal. Hein. C'est vraiment un désir de changer de cœur. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, on l'a chanté. Et en même temps, on sait très bien que, en même temps, on a dans ce désir, et puis en même temps, on a la patience et la force du Seigneur qui nous est donnée dans le sacrement. Moi, je trouve ça beau, le fait d'avoir ces deux aspects-là dans cet évangile qui se tient, l'urgence et la patience. ben que ce soit aussi pour notre vie, eh bien, un encouragement et aussi pour les autres. Il y a urgence à parler du royaume, de Dieu, de la foi, mais aussi il y a une patience par rapport à nos contemporains qui connaissent pas grand-chose, qui sont désintéressés, ils sont pas contre, hein, mais s'en désintéressent, désintéressent de la foi, etc. Mais voilà, le Seigneur, comme prend patience et écoute ce vigneron, hein, laisse-le encore cette année, peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Amen.